on a tous vécu un peu la même chose, la double culture, l'éducation en France par des parents asiatiques.
En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases.
Bah, c'est à travers l'expérience des gens qu'on apprend beaucoup, les uns envers les autres.
Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiat.
Se retrouver autour d'une table, discuter et partager de bons moments.
D'avoir une multiculture, c'est trop bien. D'être multiculturel, d'avoir plein d'origines, c'est trop cool.
Comment nos origines asiatiques influencent-elles notre construction identitaire ? Comment transmettre nos cultures à nos enfants ? Quelle place pour les Asiatiques dans les médias ou les arts ? Comment lutter contre les stéréotypes ? Comment valoriser les identités et cultures asiatiques ? En tant qu'Asiatique vivant en Occident, ces questions, vous vous les posez peut-être. Moi, en tout cas, je me les pose, parmi beaucoup d'autres. Je suis Mélanie Hong, française d'origine sino-vietnamienne, et vous écoutez Asiatitude. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions personnelles et vos récits de vie intime pour mieux appréhender le rôle de nos cultures dans nos vies. Je vous partage aussi mes conversations avec des artistes, entrepreneurs, experts qui agissent pour une meilleure valorisation des histoires, des talents et des savoir-faire asiatiques. Mon but, planter et arroser des graines d'asianité pour mieux vivre notre multiculturalité. C'est parti ! Est-ce que notre rapport à notre identité passe aussi par notre rapport à nos aînés ? C'est une question que je me pose et à laquelle je tente de répondre dans cet épisode 4 de la saison 3, à nos grands-mères asiatiques. Dans ce quatrième et dernier épisode de la mini-série, Mélanie Vijayaratnam vous raconte sa mamie, sa grand-mère maternelle sri-lankaise.
Moi, c'est Mélanie Vijayaratnam, j'ai bientôt 34 ans, je suis d'origine tamoule sri-lankaise. Moi, j'ai choisi de parler d'une femme qu'on appelle mamie dans ma famille. C'est la maman de ma maman, donc c'est ma grand-mère maternelle. On a pile poil 50 ans d'écart, elle va sur ses 84 ans cette année. Et voilà, c'est une femme qui habite en fait à Toronto, au Canada. Alors depuis que je suis née, elle habite là-bas. Donc il y a une distance géographique très grande. Et depuis toute petite, pour moi, le Canada, ça représente mamie. Elle est née dans un village près de Jaffna, au Sri Lanka, comme mes parents. Mais c'est vrai que bah voilà, pendant la migration, mes parents, eux, ont eu l'opportunité quelque part de venir à Paris. Et elle, ça ne s'est pas fait comme ça. Je dois avouer qu'il y a plusieurs épisodes de son parcours que je ne connais pas, parce que c'est une femme qui est très, très, très mystérieuse. C'est une femme qui a connu beaucoup de traumatismes aussi. Ma grand-mère, elle est née en 1940. Et en fait, voilà, elle est tombée amoureuse de mon grand-père maternel à une époque et dans une culture où l'amour n'était pas forcément bien vu. Donc elle a choisi de confronter sa famille et en fait elle s'est mariée avec son amoureux, 3 enfants, oui, dont ma mère. Elle a été complètement ruinée par sa famille. Normalement ce sont des mariages arrangés, c'est la famille qui devait choisir. La famille avait un prétendant pour ma grand-mère et ma grand-mère en fait elle ne voulait absolument pas respecter ses normes, ses codes traditionnels. Donc en fait elle a fugué, elle a pris ses affaires et elle est partie chez son copain, en fait, son fiancé. Ils se sont mariés, ils ont eu leurs enfants. Et ça s'est mal passé parce que le mari en question, mon grand-père, il la battait. Ça se passait très, très mal. Il y a eu beaucoup de violence. Et ma grand-mère, en fait, elle a pas divorcé hein, parce qu'il n'y avait pas ces choses-là à l'époque. C'était dans les années 1960. Elle est revenue chez sa famille et là, elle n'a plus du tout eu la même place qu'auparavant. Alors qu'avant, elle était vraiment chouchoutée. Elle disait que voilà, c'était une des plus jolies de la fratrie. Donc, elle avait vraiment une place un peu particulière. Et de ce que j'ai compris, alors toutes ces choses-là, bien sûr, ce n'est absolument pas elle qui me les a racontées. Hein, c'est ma maman qui me les a racontées. Et elle me les a dites parce que je faisais une recherche en psychologie sur ma généalogie. Sinon, je pense que je n'aurais jamais su tous ces secrets, en fait, parce que ce sont vraiment des secrets. Ma grand-mère a fait vraiment attention à ce que ça ne se sache pas, en fait, toute cette histoire, tout son passé-là. Et je pense que ça participe au fait que pendant longtemps, nous, à ma génération de cousins-cousines, on ne s'est jamais posé de questions ni sur ma grand-mère, ni sur mon grand-père, que je n'ai jamais connu, et ni sur le Sri Lanka, en fait. Elle n'a plus du tout eu la même place qu'auparavant. Elle a été reniée par ses parents, certains de ses frères et sœurs. Certains frères ne lui parlent toujours pas aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, en fait. Ils lui en veulent encore. Et je me rappelle quelque chose de très fort que ma maman m'a dit un jour, c'est que son propre père, à ma grand-mère, lui en a voulu, même sur son lit de mort, alors qu'elle adorait son père, en fait. Et je crois que ça a carrément brisé ma grand-mère. Et en fait, c'est arrivé jusqu'à nous, dans le sens où elle a été tellement blessée qu'elle a toujours cherché à se réparer à travers nous. Et c'est pour ça qu'elle a eu une place très, très importante dans nos vies. Quand je dis nos vies, c'est des cousins, cousines de la troisième génération. Parce qu'elle a toujours, en fait, cherché à nous éduquer de sorte à ce que personne nous fasse du mal, à ce qu'on tombe jamais, en fait, à ce qu'on soit résilient toujours. Alors, c'est une grande force. Et c'est vrai que je suis très touchée d'en parler aujourd'hui. Mamie, c'est une grand-mère avec qui je suis proche, avec qui j'étais proche quand j'étais enfant surtout. C'est une relation presque fusionnelle que j'avais avec elle quand j'étais enfant. C'était un peu le coparent. Ma grand-mère a toujours été là psychologiquement, je veux dire, voilà, pour nous souhaiter nos anniversaires, pour nous soutenir dans nos études, etc. Et parfois, elle a pris la place de mon père aussi parce qu'il y a une relation très forte entre ma mère et elle, sachant que ma mère est venue en France à l'âge de 16 ans, donc la séparation, elle a été quand même précoce entre elles deux. Elle nous appelait souvent. On l'appelait aussi. Elle envoyait beaucoup de cartes, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Elle n'avait pas réseaux sociaux du tout, d'ailleurs. C'est vraiment sa présence à travers les cartes, à travers les souhaits, quand il y a des fêtes traditionnelles, le passage à la nouvelle année. Quand j'ai grandi, ça a beaucoup évolué, parce que je crois que j'ai été sensible, en fait, à ses propres blessures. Ça m'atteignait de plus en plus, en fait, et ça m'empêchait de vivre ma vie à moi. Et la dernière fois là que je l'ai vue, c'était en 2020, et c'était même pas fait exprès, parce qu'en fait, elle devait aller au pays, et elle s'est retrouvée coincée en France, puisqu'il y a eu le Covid et le confinement. Et je trouve que c'est assez rigolo, parce que en fait, ma grand-mère a toujours veillé à ne pas assister à nos mariages, une fois qu'on est devenu adulte, hein, à nos anniversaires, parce que tout ce qui est regroupement familial, elle en a peur. Parce qu'elle a peur de tomber sur un tonton qui va lui rappeler quelque chose de son passé. Il y a encore ça qui est très vif aujourd'hui encore. Et puis là, en fait, en 2020, moi, je venais d'avoir 30 ans et elle était là, elle était coincée ici. J'ai trouvé ça hyper rigolo de me dire, bah, finalement, tu as fêté ça avec nous. Je pense qu'elle était heureuse. Alors, dans ma famille, c'est vrai qu'on ne se dit pas explicitement ces choses-là, hein, mais à voir son sourire, à me remémorer son sourire et puis la manière dont elle était. En fait, elle était comme un enfant. Qui était super contente parce que c'est une femme qui vit, en fait, j'ai oublié de le préciser, seule, du coup, au Canada. Elle est vraiment toute seule et je l'ai toujours connue toute seule parce qu'elle n'a jamais voulu refaire sa vie après ce qu'elle a vécu avec mon grand-père. Là, la voir entourée des siens, en fait, parce que c'est vraiment l'aînée de la famille, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée aussi de voir ma maman avoir cette protection de sa propre maman à elle. Et même si finalement il y a la distance, même s'il y a des choses qui ont été cassées, moi j'aime beaucoup ma maman. Et voir quelqu'un qu'on aime beaucoup, aimer encore plus quelqu'un d'autre, je crois que ça fait que il y a quelque chose. L'amour, en fait, ça transcende, je crois. C'est son amour, le partage de l'amour qui vient jusqu'à toi et je trouve que c'est trop fort. Une photo qu'on avait prise ce jour-là, c'était ma grand-mère, ma mère et moi. Et je l'avais gardée, en fait, sur mes réseaux sociaux personnels, en photo de profil, en mettant comme légende trois générations de femmes. Et je me suis rendu compte que c'était très important pour moi, que j'aurais aimé avoir des moments comme ça, des moments où, en fait, on était en train de rigoler, on était joyeuses, on était unies, on était soudées. Et j'aurais aimé avoir ces moments-là de manière plus intense, plus souvent aussi, jusqu'à maintenant. Grandir dans ce contexte où il nous manquait des pièces de puzzle, c'était très dur, c'était très complexe. Parce que à chaque fois, il fallait être les meilleurs, à chaque fois, il fallait avoir zéro reproche quelque part. Mais nous, on était des enfants, On n'avait rien demandé, presque c'était du perfectionnisme, hein, de la surperfection en fait. Hein. Et parce qu'il fallait la réparer, elle. Elle a eu un comportement, je pense, qui est clairement toxique vis-à-vis de nous, les enfants et les petits-enfants. Hein. Je ne sais pas si mes cousins et cousines emploieraient ce terme, mais moi, c'est clairement ça. Mais encore une fois, c'est parce que je suis psychologue et j'ai étudié et je comprends aujourd'hui. Mais je crois qu'en fait, elle a projeté sur nous des choses qu'elle n'a pas pu faire par elle-même, dans le sens où elle a voulu qu'on redore son image, en fait, par rapport à ses oncles, à ses tantes, ses cousins, cousines à elle de sa génération. Aujourd'hui, en fait, ça lui plaît, ça lui fait vraiment plaisir de parler de nous, en fait, bah, en bien, parce que bah, quelque part, dans ma génération à moi, on a toujours fait attention, sans même savoir son histoire, encore une fois, bah, à suivre un peu les règles. Et ça lui fait plaisir de dire, ah bah, Mélanie, par exemple, elle fait ça, tu sais qu'elle fait ça, qu'elle est mariée à un tel, qu'elle a eu son enfant, ah tu sais qu'un tel fait ça. Et je crois que c'est sa manière de se réparer, d'avoir un peu bah, sa vengeance, elle qui a perdu sa place, une place qui est, bah, elle est devenue invisible. En fait, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, elle essaie de se réapproprier ça. Par exemple, même au pays, elle a été déshéritée. Hein. C'est vraiment allé très, très loin. Encore une fois, on était dans les années 60. C'est allé très, très loin. Elle a été déshéritée de terre. En 2004, je crois, elle est repartie au pays. Elle a racheté des terres à ses frères et sœurs qui s'en fichaient complètement parce que ses frères et sœurs avaient immigré et n'avaient pas l'intention de repartir vivre au pays. Donc, elle a fait tout un tas de choses pour se réparer et pour nous réparer dans la boucle, en fait. Donc aujourd'hui, c'est une grand-mère dans la fratrie de sa génération qui a un énorme, presque palace dans le village de notre enfance. C'est très bien, mais en fait, par exemple, ce palace, elle me l'a donné à moi. Moi, j'avais 14 ans à l'époque, j'ai rien demandé, je suis même pas sûre de retourner vivre au pays un jour parce que j'y suis pas née, en fait. Et c'est assez complexe. On se retrouve dans des configurations où, ok, ça a réparé quelqu'un, mais toi, ça te met dans des situations où c'est assez compliqué, en fait. Et c'est là où ça devient toxique. J'en ai voulu, parfois, parce que, en fait, ça aurait été tellement plus simple qu'elle nous explique son histoire, qu'elle vide son sac, et voilà, qu'on lui pardonne, parce que finalement, elle a fait avec ses outils à elle, elle a fait avec beaucoup d'amour, c'est juste que, bah, voilà, elle a été abîmée à plusieurs reprises, elle n'a pas eu tous les outils pour faire en sorte de nous protéger. J'aurais aimé qu'elle nous partage ces choses-là. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était une forme d'amour et qu'il n'y a pas qu'une seule définition de l'amour, que ce soit de son côté ou de mon côté finalement. C'est vrai que je ne lui parle pas souvent au téléphone parce que je sais que quand on parle, on peut pas déjà se dire ces choses-là. C'est pas culturel, c'est des choses qui ne se disent pas. Et j'ai pas envie de faire des séances de psychothérapie au téléphone avec ma grand-mère parce que c'est pas la place que je vais avoir auprès d'elle. Donc on a une relation distante que je cultive consciemment aujourd'hui. Mais elle a une place très, très importante dans mon cœur et je pense que si je suis psychologue aujourd'hui, si j'ai ces pensées-là, ces réflexions-là, c'est parce que je vois ces réalités par rapport à mes patients. Et quelque part, je ne crois pas au hasard, je crois que c'est ma grand-mère aussi qui m'a planté des petites graines pour que je puisse faire ces métiers-là, ce métier-là en tout cas, cette activité-là, et que je puisse peut-être avoir les outils pour comprendre, pour me guérir, voire peut-être la guérir par la suite, mais en tout cas, confronter aussi les autres par rapport à tous ces aspects traditionnels, etc. Et tout ça, c'est vraiment lié, je crois, et c'est le lien, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. J'ai choisi cette grand-mère, cette mamie-là, plutôt que ma grand-mère paternelle que j'aime énormément de tout mon cœur, parce que je lui devais ça, je crois. Elle est très, très, très résiliente. C'est une femme qui est extrêmement forte. Je n'ose à peine imaginer ce qu'elle a pu vivre. Être rognée de son pays, par rapport à son mari, ses parents, c'est très dur. Et pourtant, c'est un roc, en fait, cette femme. Et je crois qu'elle ne s'en rend pas compte. Mais elle est très, très forte. Et je crois qu'elle a besoin de l'entendre, en fait, de la génération qui vient après elle, ou même des générations d'après. Parce que c'est elle qui a construit ça, quelque part. Il suffit d'une personne qui ose s'affirmer pour donner le feu en fait aux générations futures. J'avais écrit une lettre pour ma mamie. Alors, ça fait le lien, finalement, la boucle est bouclée, parce qu'elle m'écrivait beaucoup de lettres, de cartes quand j'étais petite, et je crois que c'est ce qui ferait sens dans notre relation entre elle et moi. Mamie, je sais que tu as vécu des choses difficiles dans la vie. Certaines personnes ont été dures avec toi. Elles t'ont jugé. Elles t'ont abandonné. Elles t'ont puni. Certaines époques sont plus difficiles que d'autres. Certaines mentalités plus fermées. Et c'est injuste. Je regrette que ce monde et cette famille n'aient pas su davantage te protéger quand tu en avais besoin. Je comprends que tu aies été triste, en colère, et que tu en aies voulu aux gens qui t'entourent. J'aimerais tellement que tu ne te définisses pas qu'à travers cela. Toute la vie, on se juge, on se lamente, on est triste. Mais la vie est courte. Et j'aimerais que tu vois et que tu apprécies toutes les choses que tu as réalisées, souvent toute seule. C'est ce qui rend ton parcours si admirable aux yeux de tes enfants et de tes petits-enfants. J'aimerais que tu te rendes compte à quel point tu es forte. J'aimerais que tu t'aimes, que tu assumes tes choix et que tu fasses la paix avec ton histoire. Se haïr, c'est trop facile. Mais s'aimer demande beaucoup de courage. C'est important pour toi, pour nous aussi. Parce que parfois, tes blessures nous atteignent et peuvent nous faire beaucoup de mal. Mamie, à 50 ans près, j'aurais pu être à tes côtés durant ta jeunesse pour prendre ta défense, pour te protéger, pour te donner l'amour qui t'a manqué. Je le fais aujourd'hui à ma manière, en racontant ton histoire, qui doit être raconté, et en te rendant hommage à toi, mon ami, en faisant du bruit, là où ils t'ont contrainte au silence. 6000 kilomètres nous séparent, mais tu fais partie de moi au quotidien. Aujourd'hui, je suis debout à combattre ces injustices que d'autres femmes de ma génération peuvent subir, comme cela a été pour toi à l'époque. Je veux faire entendre ta voix pour que les femmes de demain puissent être debout sur les sacrifices de leurs ennemis, comme toi, et qu'on puisse voir toujours plus loin. Pardon pour ce que tu as enduré, et merci pour t'être battue, et de nous avoir donné les outils pour nous défendre. Je t'aime.
Que dire de plus, après l'écoute de cette lettre, de ce récit, de ces récits, de Petmani, Anna et Mélanie? C'est beaucoup d'émotions. Les relations ne sont pas toujours tout blanc ou tout noir, comme on peut le voir. Elles sont faites d'ombre et de lumière. Et Mélanie, certainement par son métier de psychologue, peut-être aussi avec sa sensibilité personnelle et son intelligence émotionnelle, a beaucoup de recul sur la situation et sur cette relation qui la lie avec sa mamie. Elle a décelé l'amour là où on pourrait voir de la dureté. Et ses lunettes de tendresse, je crois qu'elle apaise, elle apaise tout. Alors merci à Petmani, Anna et Mélanie de nous avoir raconté leur grand-mère. Cette mini-série, c'est un clin d'œil à nous, petits-enfants que nous sommes, et un mot d'amour à toutes les grand-mères qui veillent sur nous avec tendresse. Et si vous aussi, vous voulez dire un mot à votre grand-mère, n'hésitez pas à vous raconter, que ce soit sur les réseaux ou par message. Ça me ferait plaisir de vous écouter. À bientôt !